France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Dans son nouveau film Imperial Princess, il continue d'explorer l'ultra-moderne vacuité des ultra-riches à Monaco. Virgile Vernier sera mon invité à partir de 13h. Et tout de suite, c'est l'heure de la table ronde critique. Aujourd'hui, deux expositions. 40 ans d'art contemporain, la Fondation Cartier ouvre sa collection pour l'inauguration de son nouveau bâtiment. C'est l'exposition générale. Et puis Bridget Riley, point de départ, ou comment Georges Seurat, le maître du pointillisme, a profondément influencé cette reine de l'art contemporain. Et pour parler de tout ça, je vais vous présenter les critiques du jour. Corinne Rondeau, maître de conférences en esthétique et sciences de l'art à l'Université de Nîmes et critique d'art. Bonjour.
Bonjour Marie.
Sarah Hilaire-Meyer, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux.
Quand on se retrouve à Palais Royal, c'est un peu un piège, hein, a priori. Il y avait des paramètres très très importants qui étaient le fait de pouvoir mettre la fondation dans Paris, dans ces quartiers les plus historiques, les plus difficiles à toucher, on pourrait dire. Mais c'est pas une critique d'Haussmann, c'est simplement dire comment la ville bouge et comment, à partir de là, on peut faire quelque chose qu'on ne ferait jamais. Voilà. C'est un jeu. Tout ça, ça passe par la vie.
L'architecte Jean Nouvel avait imaginé le bâtiment de la Fondation Cartier, boulevard Raspail à Paris, et il est aussi à l'origine du nouveau lieu en plein cœur de la capitale, aux deux places du Palais Royal exactement. Un bâtiment, vous l'avez entendu, haussmannien, qui a accueilli les grands magasins du Louvre au XIXe siècle et qui a été totalement repensé. Pour l'inauguration, la Fondation Cartier pour l'art contemporain organise jusqu'au 23 août prochain une exposition générale, c'est le titre, quelques 600 œuvres de plus de 100 artistes qui ont marqué l'histoire de l'institution depuis sa création en 1984. On commence par un avis en quelques mots d'abord, Sarah Hilaire-Meyer.
Tout d'abord, je dirais un lieu impressionnant par sa taille, mais surtout par son architecture qui offre, à mon sens, des possibilités scénographiques intéressantes. Cela dit, cette exposition, je trouve qu'elle emprunte à bon escient son titre aux expositions générales des grands magasins, puisqu'elle s'en tient un peu trop à des panoplies d'œuvres d'art qui produisent en fait des effets d'ambiance sans construire un véritable propos.
Corinne Rondeau.
Écoutez, c'est le complexe de la Poulie et du Treuil. Moi, j'ai trouvé ce bâtiment de l'extérieur, de la vitrine de luxe au bon marché ou de Apple. Et à l'intérieur, des plateaux ouverts qui vont pouvoir être manipulés justement grâce à ces treuils, à ces poulies qu'on voit partout. Et j'ai trouvé que ce lieu était massif, particulièrement difficile de déplacement en haut, en bas, en diagonale, avec des arrêts. Donc j'ai trouvé que c'était le lieu des mille pas perdus.
Alors Sarah Hilaire-Meyer, revenons un peu sur le lieu. Une fois qu'on a dit qu'il y a des poulies et des treuils et que moi j'ai dit que c'était relativement amovible, qu'est-ce qu'il en est ?
Je trouve en tout cas que c'est un lieu qui affiche, j'irais, son capital de manière assez élégante, pas de manière si massive, je trouve que le dit Corinne. En tout cas, le dispositif conçu par Jean Nouvel me semble intéressant. Ce sont donc, comme elle le disait, des plateaux amovibles, visibles en fait les uns depuis les autres, ce qui fait que les étages en fait communiquent entre eux. Par exemple, on peut voir le sous-sol ou le premier étage depuis le rez-de-chaussée. Ça permet en fait des mises en rapport et des dialogues entre les œuvres et donc aussi normalement l'articulation d'un propos par des jeux d'opposition, de contraste formel ou symbolique. Or, justement, je trouve que le problème de cette exposition, c'est qu'elle n'exploite pas bien ce dispositif. Elle ne construit pas, en fait, un propos, comme je le disais. Ce qu'elle fait, c'est étaler des panoplies, en fait, d'œuvres d'art qui s'appellent, se déclinent les unes les autres autour de différents thèmes sur lesquels on pourra revenir, comme le monde vivant, l'architecture ou la science-fiction. Mais finalement, pour produire justement des ambiances plus ou moins cool, davantage que du sens. Et de ce point de vue, en fait, le fait que les commissaires revendiquent le lien entre la Fondation Cartier et les grands magasins, je trouve tombe plutôt juste, mais pas tellement comme ils l'envisageaient, puisque D'un côté, ce que font les grands magasins, c'est justement déployer des panoplies d'objets à effet d'ambiance. Et puis de l'autre, ce que font les fondations privées, c'est collectionner des œuvres d'art moins pour leur valeur en fait symbolique, à proprement parler artistique, que pour leur valeur de signe, signe de différence, de reconnaissance, comme dans tout système marchand ou tout système d'objets, à l'intérieur d'un système de valeurs partagées, en l'occurrence par des élites économiques. Alors la Fondation Cartier, et ses panoplies, je dirais, elle s'inscrit justement dans ce jeu de distinction et d'apparentement avec les autres fondations que l'on connaît déjà. Cela dit, quand même, ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que sa collection, elle ressemble pas tout à fait à celle des autres fondations, puisque elle comprend certes des grands noms de l'art contemporain, mais elle comprend surtout essentiellement des artistes indigènes, autochtones, de communautés d'Amérique latine ou d'Asie. Ce sur quoi, d'ailleurs, on pourra revenir, parce que c'est pas sans poser de problème.
Corinne Rondeau, pour revenir déjà sur le bâtiment, pour vous, c'est pas du tout léger, ça
alors,
permet pas,
c'est pas
une circulation.
Là, si vous voulez, moi j'ai eu d'abord, je suis j'ai un, je trouve malheureux finalement que la marginalité du boulevard Raspail se soit soustraite, puisque maintenant ils sont sur le méridien des fondations privées, hein, Pinault, Fondation Cartier, Vuitton, donc on est sur le méridien, c'est vraiment le jeu du Monopoly, à qui va ruiner l'autre, hein, d'une certaine manière, il y a une dimension de marché, il y a une dimension de visibilité touristique, donc qui est assez pénible, parce que j'ai toujours apprécié beaucoup les expositions de la Fondation Cartier, qui avait une singularité de scénographie, qui était un bâtiment aussi de nouvelles, qui était très ouvert, celui-ci est plus fermé, mais c'est surtout que cette installation avec ses panneaux tout ouverts, ses plateformes ouvertes, créer une polyvision, c'est-à-dire envoyer d'en haut, d'en bas, en diagonale. Donc en fait, on était dans une sorte de forêt de formes, de couleurs, avec de temps en temps, grâce au plan qui nous était donné, de voir apparaître ces quatre thématiques qui étaient au cœur de l'exposition, avec des expositions personnelles aussi. Donc on a des grandes ouvertures, mais en fait, si Sarah l'a constaté, quand on arrive, on a deux grandes architectures, enfin deux formes qui sont hautes, plus deux autres derrière, il y a Alessandro Mendini, une petite cathédrale, puis à côté une structure de Mendini, de Peter Halley, l'artiste de Neo Geo, et puis derrière on a une sorte de grande de Richard Schwager qui est comme une sorte de trône totem, et puis à côté une maquette de cet architecte dont l'exposition à Boulevard Raspail était extraordinaire, c'est Yunya Ishigami, qui est donc une maquette d'une chapelle qu'il a fait dans une province chinoise. Et donc vous avez cette chose qui vient et qui vous donne envie de repartir d'une certaine manière. Donc, il y a quelque chose de monumental dans ce hall. Et puis ensuite, vous avez la plongée dans le creux, puisqu'on a baissé la première plateforme. Donc le niveau premier, c'est une balustrade, on va dire. Puis ensuite, vous avez un creux comme une piscine. Puis ensuite, quand vous descendez, il y a encore un niveau dessous, ou un demi-niveau. Puis ensuite, vous avez des coursives. Enfin, vous avez des petites chapelles sur les bords où, quand vous êtes à deux, vous êtes déjà trop. Donc c'est très étonnant. Parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler que la Fondation Cartier, ce qui fait la particularité de sa collection, c'est les expositions. C'est parce que c'est un grand pourvoyeur de mécénat, Cartier, et c'est la production des œuvres dans leur exposition qui a créé cette collection. Et effectivement, avec une internationalité beaucoup plus vaste que celle qu'on retrouve chez Vuitton, qui nous fait le musée d'art moderne, d'une certaine manière. On a le côté romantique, écolo, chez Pinault. Et là, d'un coup, on se dit, moi, ce que j'attends, parce que celle-ci ne m'a pas plu, mais moi, ce que j'attends, c'est est-ce que le goût de la théâtralité, de la topographie, de l'écologie, du design, c'est-à-dire d'une sorte de transdisciplinarité de la Fondation Cartier qui avait, et moi, je crois que j'ai pas vu une exposition ratée à Fondation Cartier. Mmh. Donc, ça a toujours été un bonheur d'aller au boulevard Raspail et d'être dans ce bâtiment tout ouvert, dans lequel l'exposition Lynch, c'était des rideaux. On était dedans et dehors à la fois. Vous aviez le jardin où il pouvait y avoir des pièces. Là, on est vraiment enfermé dans une topographie urbaine. Alors, je comprends qu'il veuille être sur un méridien Monopoly, mais moi, ça, je pense aussi que c'est une question de l'art qui est en jeu. Est-ce qu'on est là pour faire du tourisme, voir les œuvres après les autres? Parce que le problème, c'est d'avoir envie de regarder les œuvres. Là, ça m'a dégoûté de vouloir regarder des œuvres.
Ça rejoint, Sarah Hilaire-Meyer, ce que vous abordiez, la question vraiment du titre, exposition disposition générale qui fait référence à la consommation.
Oui, tout à fait. Oui, bah c'est les expositions générales, c'est des expositions d'objets, des grands magasins. Effectivement, de ce point de vue-là, il y a un apparentement évident, mais en fait, ils le positionnent pas comme ça. De leur côté, ils disent que les grands magasins ont inventé des dispositifs de monstration d'objets inédits qui offraient des modes de connaissance nouveaux, des objets et auraient à ce titre inspiré les musées, ce qui, en fait, à ma connaissance, est faux, puisque c'est plutôt dans un premier temps les grands magasins qui sont inspirés des musées avant que les fondations privées, elles, finalement, s'inspirent des grands magasins et collectionnent justement les objets comme des objets marchands et des signes de reconnaissance. Donc, entre dans un entre-soi, vous voyez. Mmh. Enfin, je voudrais peut-être revenir quand même sur les œuvres et sur ces effets d'ambiance dont je parlais. En l'occurrence, celle qui domine justement cette exposition, ça serait un rapport au monde harmonieux entre humains et non-humains, avec des artistes pour l'essentiel autochtones dont on voit ici des dessins, des peintures ou des sculptures qui représentent justement des rapports symbiotiques entre humains, animaux et puis végétaux. Ce sont des artistes qui sont mis en rapport avec des artistes plus connus, comme par exemple, Giuseppe Pennon, qui est un artiste de l'Arte Povera, dont on voit ici un tissu sur lequel sont imprimés en quelque sorte des silhouettes d'arbres par décalcomanie, par frottage en fait de feuilles de ces mêmes arbres sur leurs écorces. Alors voilà, ça constitue des ensembles homogènes, cohérents, mais justement à mon sens un peu trop homogènes. En fait, pour constituer un véritable propos, pour cela, il aurait fallu en fait opposer à ces mondes enchanteurs et harmonieux peut-être des rapports au monde plus prédateurs, plus destructeurs. Mais je crois que ça aurait été aussi peut-être se condamner soi-même pour la Fondation Cartier, comme pour tant d'autres. En l'occurrence, elle est du côté de l'exploitation, de l'extraction de l'or, ce qui implique la déforestation, un recours massif au cyanure. Faut savoir que pour
là, une tonne du joaillier et du bijoutier,
voilà, mais pour une, oui, mais qui est lié à la Fondation Cartier, et pour en fait une tonne d'or, il faut 150 tonnes de cyanure, donc ça a des conséquences en fait désastreuses pour les communautés locales sur le plan environnemental, mais aussi humain et social. Et il se trouve que j'ai mené l'enquête et que c'est le cas justement pour une communauté. Notamment qui s'appellent donc les Yanomami. C'est une communauté indigène d'Amérique latine dont on voit ici des dessins et dont certains membres aujourd'hui s'opposent en fait à la joaillerie parce qu'elle menace justement son mode de vie. Et alors, en tout cas, pour revenir sur les grands magasins et la Fondation Cartier, je dirais que les effets d'ambiance dans les grands magasins, c'est ambiance par exemple working girl, sportswear. Là, c'est ambiance monde vivant, cool. Mais en fait, précisément que menace peut-être ce type de fondation.
Corinne Rondeau.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Sarah. Je trouve que c'est au niveau du signal culturel qui est fait, c'est vraiment c'est du foutage de gueule. Enfin, je veux dire, moi ça me pose vraiment un très gros problème. Après, ça c'est sur le fond, sur ce qu'est la Fondation Cartier qu'évoque Sarah. Après, effectivement, moi je suis très très décontenancée par ce que j'ai vu. Alors, je dirais que peut-être cette exposition, elle ressemble un peu à la vidéo de Bill Viola, où il retient son souffle pendant plusieurs secondes, et puis d'un coup, il cherche l'air à nouveau. Alors, effectivement, il y a très peu de lieux où on peut voir vraiment des vidéos. Il y a celle de James Coleman que j'aime beaucoup. C'est une projection filmique, C'est sur un combat de boxe, comme ça, avec un gros bruit. Il y a très peu de vidéos, finalement. Il y a beaucoup de photographies, ce qu'a montré aussi la collection. Et c'est toute cette dimension, oui, de être nature, qui est vraiment le point le plus désobligeant, je dirais, parce que c'est de l'artifice en long, en large et en travers. Donc moi, j'attends. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'exposition. Qui me désole. Enfin, la localisation me désole et la première ouverture me désole.
Sarah Hilarmière.
Oui, j'aimerais bien revenir sur ce dont parlait Corinne, c'est-à-dire en fait un autre thème qu'on trouve dans cette exposition, c'est celui des machines d'architecture, qui réunit donc des œuvres sous forme souvent de maquettes, qui imaginent des mondes plus ou moins utopiques ou dystopiques. Je pense en particulier à l'artiste congolais Kingelez, qui concevait des maquettes notamment de sa propre ville, Kinshasa, à partir d'objets ordinaires, de rebuts, de déchets, ce qui donnait lieu à des ensembles très colorés, très très vivants et qui comprennent en fait des infrastructures publiques dites manquantes, comme par exemple une école, un stade, une gare ou une université, qui assure selon lui le bien-être collectif, mais aussi plus d'égalité et de justice sociale. Et je dois dire que c'est à nouveau, c'est un peu ironique de trouver cette pièce dans cette fondation privée qui justement, elle privatise l'espace public et se donne des fonctions qui sont celles d'un musée public, comme le disait aussi Corinne, qu'elle participe, les musées publics, à priver de fonds parce que justement, elle bénéficie d'exonérations fiscales qui privent les structures publiques de ces mêmes fonds.
Exposition générale, c'est l'exposition inaugurale dans le nouveau bâtiment de la Fondation Cartier et c'est à voir jusqu'au 23 août prochain, place du Palais-Royal à Paris.